Voilà, bonjour à tous. Comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais avant, on veut simplement entendre aussi ce que le Seigneur veut nous dire aussi à travers l'enseignement, puisque nous travaillons un peu durant cet été sur la prière. On voulait justement peut-être prendre l'enseignement sur la prière avant de pouvoir aller aussi dans l'adoration. Donc, on change un peu notre habitude. C'est vrai que peut-être ça peut ébranler un peu nos convictions et comme ça, mais je pense que c'est important aussi de rester aussi ouvert à l'Esprit de Dieu et d'aller selon ce que le Seigneur veut aussi nous dire. Donc, ce matin, on va continuer un peu ce que nous avons fait, comme on l'a vu, relever les fondements posés de la prière, la deuxième partie, à travers aussi la prière Notre Père. Durant tout ce printemps, on a été interpellé à travers Ésaïe 58. Comment que le peuple, justement, était dans une certaine routine d'aller devant Dieu et comment qu'ils avaient besoin, d'être changés, transformés par le Seigneur. Parce qu'ils voulaient faire le jeûne, ils voulaient faire la prière selon eux, mais ils restaient dans leur cœur méchant, ils restaient dans leur cœur arrogant. Et voilà pourquoi que Dieu leur dit, c'est pas de cette façon-là, c'est pas ce jeûne que je préfère. Voici le jeûne que je relève, voici le jeûne que je désire aussi pour nous. Et le Seigneur veut nous interpeller durant tout ce printemps, justement, de l'importance de restaurer notre relation avec Dieu, c'est-à-dire de rechercher vraiment le cœur du Seigneur. Alors, c'est ce que nous allons faire encore ce matin pour que nous puissions voir ce que Dieu veut nous dire. Le prochain diable, donc, on va regarder juste quelques points qu'on a vus la semaine passée. Ésaïe 58, verset 12. Dit, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Et tu releveras le fondement posé dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. On a vu dans ce verset 12 quatre mots qui commencent par la lettre R. Rebâtir, relever, réparer, restaurer. Donc, sont synonymes pour la démonstration d'une action nouvelle. On voit qu'on a besoin de restaurer notre relation avec Dieu. On a besoin de réparer peut-être ce qui est cassé. On a besoin de relever les fondements qu'on a perdus. On a besoin de rebâtir sur les ruines d'autrefois, c'est-à-dire peut-être les choses que nous faisions avant pour le Seigneur, mais qu'on a perdues aussi avec le temps. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire aujourd'hui, c'est de relever les fondements de la prière, de réparer les brèches qui ont été faites dans l'Église, de restaurer ce qui est en ruine. Donc, comme on sait que la respiration est vitale hein, pour nous, on réfléchit pas à respirer, on respire jour après jour, à tout moment, 24 heures sur 24, même quand on dort, on n'est pas conscient, on respire. Il nous est demandé que la prière est vitale comme une respiration. Ça doit faire venir comme la relation avec notre Seigneur, pour notre vie personnelle, mais aussi pour le développement de l'Église. Maurice Decker, qui est un pasteur en France, dit la chose suivante dans son livre La prière farce ou force. Il dit, trop souvent, nous pensons à la prière comme un moyen d'obtenir ce que Dieu fasse des choses pour nous et pour les autres. Mais le but noble de la prière est d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est vrai qu'on a l'habitude généralement de prier pour faire nos requêtes, nos besoins. Et c'est vrai que c'est bon parce que Dieu est là, Dieu veut nous entendre. Mais avant tout, la prière est là comme approfondir notre relation avec Dieu, d'exprimer notre louange, d'exprimer notre adoration, de contempler Dieu dans sa sainteté. Voilà pourquoi que encore ce matin, nous désirons mettre l'accent sur la prière, de rechercher la face de Dieu, de venir dans la présence de Dieu pour le louer et pour l'adorer. Donc, le prochain dia, on voit que la prière collective, la prière ensemble est importante. Voilà pourquoi que nous le faisons. Mais nous avons vu que dans ces derniers temps, la prière peut-être a passé au second rang, peut-être c'est plus forcément une priorité. On le voit peut-être aussi dans les prières durant la semaine. Maintenant, on le fait le mardi et le samedi soir. Souvent, on est juste quelques personnes. La soirée impact prière, c'est la même chose. On est juste quelques personnes. Donc, c'est vrai que on a un travail, on a des obligations familiales, professionnelles qui sont là, mais on veut redécouvrir l'importance de la prière. Et voilà pourquoi on s'est dit, Mais puisque peut-être qu'on a besoin de comprendre ce que la prière veut nous dire pour nous, pourquoi ne pas l'exercer? Pourquoi ne pas le faire durant aussi la célébration? Donc, on voit trois points importants de cet appel à la prière. À être en communion avec nos frères et sœurs dans la prière demande un sacrifice. Il faut prendre du temps pour Dieu. Il faut prendre du temps pour s'approcher de Dieu. Et c'est vrai que souvent, dans nos horaires de la journée, dans nos programmes, peut-être on prie le matin, on prie le soir, peut-être encore à midi ou avant les repas, mais on a tendance à couper beaucoup dans nos prières parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres obligations. Mais on a besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de prendre ce temps avec toi, seul, mais aussi en tant qu'Église aussi. Prends le temps pour t'adorer, te louer, pour écouter ce que tu veux nous dire. Il y a une soumission à l'Esprit. Il faut se mettre sous la direction de Dieu. Souvent, on vient dans la prière puis on dit « Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. » Le Seigneur veut le faire, mais on a besoin de dire « Seigneur, que ton esprit me guide pour que mes prières ne soient pas axées juste sur mes besoins, mais que la prière puisse au premier lieu t'honorer, te louer. » Donc, on a besoin d'être soumis à l'Esprit de Dieu et de pouvoir prier selon ce que le Saint-Esprit veut nous dire. C'est un outil aussi de discipline parce que ça demande un effort. On le voit que dans toutes les églises, dans toutes nos situations, comment que c'est une discipline, dans le sens que souvent, on va passer à côté. Souvent, peut-être, on va prendre moins de temps parce que, justement, on a d'autres obligations. Même aussi les pasteurs, même moi-même aussi, je dois aussi avoir une certaine discipline pour prendre le temps devant Dieu parce que sinon, on est pris par toutes sortes de choses. Et l'ennemi, c'est très bien. Je vois comment que souvent, lorsque je décide ou je veux prendre un temps avec Dieu, il arrive toutes sortes de situations qui me déstabilisent, qui me disent « Ah, ben là, il faut vite que je règle ça. » Et on va faire ces choses à la place d'être devant Dieu. L'ennemi veut nous distraire pour que nous ne puissions pas justement prendre ce temps mis à part pour le Seigneur. Mais si on applique justement de ce temps avec le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer, il y a des miracles qui vont s'accomplir. Et on l'a vu justement dans les groupes d'intercession. Dans les premiers temps, avant la pandémie, on avait un groupe d'intercession qui se réunissait à tous les 15 jours, je crois, depuis 8 heures le matin jusqu'à 10 heures avant le culte, puis ensuite même encore l'après-midi, ce groupe d'intercession a mis les bases de la prière et on a vu comment que Dieu a commencé à agir d'une façon puissante aussi au sein de l'Église. On a vu aussi dans les prières de la semaine comment il y a eu des guérisons, comment que des gens qui étaient à la recherche de travail ont trouvé, comment que l'encouragement que des gens ont eu face à des défis, des problèmes. Donc on voit que lorsqu'on se rassemble en tant qu'Église, qu'on a besoin de Dieu, que c'est vers lui seul qu'on va chercher sa grâce, alors voilà pourquoi que Dieu agit aussi à travers nos prières. John Ovushka va dire dans son livre « L'attachement d'une église à la prière est l'un des plus grands facteurs qui détermine son efficacité dans le ministère. » Souvent, en tant qu'église, on a des stratégies qu'on donne, des ressources, et c'est bon. Mais on a avant tout besoin de dire « Seigneur, c'est dans la prière que je vais chercher la direction, la façon d'avancer. » Donc, la prière collective est une âme puissante. Elle est capable de renverser les forteresses. Elle est capable d'abattre les royaumes des ténèbres, de rompre toute malédiction sur nos familles en son nom puissant et encore beaucoup d'autres choses. Et on le voit justement dans Matthieu chapitre 18, verset 19. « En vérité, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Lorsque nous sommes deux, nous sommes déjà à l'Église, nous sommes déjà rassemblés entre au moins deux personnes. Et ensemble, on veut s'accorder, on s'accorde pour demander des choses au Seigneur. Et on voit comment que l'ennemi, justement, ne veut pas que nous soyons ensemble. Parce que lorsqu'il voit que la prière ensemble, lorsque la prière collective est présente, elle est puissante, elle agit, elle fait de grandes choses. La semaine passée, prochain dia, on a vu un des aspects de la prière qui est important et souvent que nous négligeons, c'est la prière d'adoration. Donc, l'adoration est la réponse de tout ce que nous sommes à la révélation de tout ce que Dieu est. John Oswald Sander va dire, par rapport à l'adoration, va dire, « L'adoration consiste à incliner le cœur et l'âme dans un sentiment profond d'humilité et de révérence devant Dieu. » L'adoration consiste à incliner le cœur et l'âme, l'intérieur, dans un sentiment profond d'humilité et de révérence devant Dieu. Dire, « Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux vraiment m'humilier parce que tu es le Dieu trois fois saint Et j'ai besoin de venir devant toi pour simplement ressentir ta présence, pour t'adorer, pour reconnaître toute ta majesté, reconnaître tout ce que tu fais pour nous. Donc la prière d'adoration consiste à chercher la face de Dieu avant sa main. La face de Dieu représente sa personne et sa présence. La main de Dieu pourvoit à nos besoins. Donc souvent, on va chercher sa main. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, guéris-moi. Avant de chercher la face de Dieu. On a besoin, si on cherche trop la main de Dieu, on risque de négliger sa face. Donc, on a besoin d'avoir ces deux aspects dans nos prières. Et si on cherche sa face en premier, il va ouvrir sa main avec joie afin de satisfaire aux besoins les plus profonds de notre cœur. D'où l'importance que nous avons vue de ce face-à-face. C'est important de ce face-à-face avec le Seigneur. Comme on a vu Moïse qui rentrait dans la tente de rencontre pour être face-à-face avec Dieu. Dieu lui parlait comme un ami. On a besoin. Aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu en nous. On peut parler encore à Dieu. Dieu peut encore nous parler à travers son esprit, à travers la parole, à travers différentes choses. Dieu nous parle encore. Les Écritures indiquent clairement que Dieu désire que ses enfants le connaissent, prennent plaisir en lui. Et il est prêt à disposer à restaurer son peuple si celui-ci cherche sa face à nouveau. On connaît très bien ce verset de 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc, il y a cette approche avec humilité de chercher la face de Dieu. Prochain dia, un autre point que nous avons vu de la prière fondue d'adoration, c'est l'engagement de toujours commencer nos prières à partir de la parole de Dieu. Lorsqu'on prie selon les Écritures, Dieu devient la voix et nous l'oreille. Souvent dans nos prières, on dit « Seigneur, merci, merci pour tout ce que tu es. Seigneur, voici mes requêtes. » Donc, on expose ce qu'on veut à Dieu, mais on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Et lorsqu'on le fait à travers l'Écriture, à travers la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu. La parole vient nous parler, vient nous changer, nous transformer. Alors nos prières vont simplement reconnaître cette majesté, vont voir le texte que Dieu nous donne, que l'Esprit nous donne, et de pouvoir après prier, dire « Seigneur, merci pour ce que tu as fait ». Merci, comme Nicole le dit, pour le texte qu'elle a lu ce matin, ça l'a encouragé par rapport à une situation. Alors on a besoin d'ouvrir nos Bibles. On a besoin encore de connaître des versets. Comme on a dit la dernière fois, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent mieux la Bible que d'autres, ils peuvent nous encourager. Mais chacun de nous, aujourd'hui, on a des cellulaires, on a des applications, on a des textes importants qu'on connaît ou qu'on a au début de notre Bible. Simplement, allons les regarder et laissons l'Esprit de Dieu nous travailler pour que nous puissions prier selon la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire aussi tout à l'heure. On veut revenir dans les chemins d'autrefois, c'est-à-dire dans les choses que peut-être que l'Église avait mis le fondement sur la prière, mais qu'on a perdu avec le temps. Donc, ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Donc, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Rappelez-vous, on a dit la dernière fois que la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus, « Jésus, enseigne-nous à prier ». Enseigne-nous à prier. C'est ce que nous voulons être enseignés à travers la prière que Jésus nous a laissée. John va dire dans son livre par rapport à la prière de notre Père, « Quand Jésus nous enseigne à prier, il ne commence pas en nous enseignant la manière de demander. Il nous enseigne plutôt ce que nous devons demander. Il nous donne les priorités avant de nous donner une méthode. » Donc Jésus savait qu'il allait y avoir un défi de prier. C'est pour ça qu'il a laissé un exemple, qu'il nous a montré comment prier avec la prière de notre Père. On a besoin d'être enseigné afin de bien comprendre comment prier, afin que nos prières soient efficaces, que nos prières soient des temps de qualité, d'adoration, de confession et d'écoute. Alors, dernière fois, prochain dia, nous avons vu les premières phrases qui sont justement une révérence, une adoration vers notre Père. Premièrement, il est parlé de notre Père. Il n'est pas parlé de mon Père ou Abba Père. Ce n'est pas une faute d'orthographe, mais Jésus voulait démontrer qu'il y avait quelque chose de collectif. Lorsqu'on prie notre Père, nous sommes ensemble dans les relations avec le Seigneur, les uns avec les autres. La phrase « qui est aux cieux », « comprendre sa puissance ». Dieu n'est pas un Dieu terrestre, mais le Dieu du ciel et de la terre. Nous demandons la présence de Dieu. Nous proclamons la gloire, la puissance de Dieu. Nous disons, oui, notre Père qui est aux cieux. Nous réclamons justement que ce Dieu des cieux et de la terre soit présent, soit là avec nous. Que ton nom soit sanctifié, donc relié à l'honneur de Dieu. La gloire de Dieu est venue dans le monde, dans la personne de Jésus. Que le nom de soit sanctifié signifie que nous prions pour que chacun réponde à Jésus de manière appropriée. Rappelez-nous que Dieu est trois fois saint et que nous, en tant qu'humains, nous sommes des pécheurs et que la seule façon de pouvoir s'approcher du trône céleste de Dieu, on a besoin de proclamer cette sainteté, on a besoin de proclamer aussi que Dieu vienne nous changer, nous transformer pour que nous puissions devenir vers lui sans crainte, sans peur, mais avec un cœur ouvert pour l'adorer. La phrase « Que ton règne vienne » est une prière pour le succès de l'Évangile dans le monde. On sait que l'Évangile nous a transformés et nous prions pour que le règne de Dieu s'étende par l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. Puis, que ta volonté soit faite, nous avons hâte de voir Dieu régner sur cette terre comme il règne dans le ciel. Nous voulons que les gens reconnaissent que, que Dieu est bon, qu'ils se soumettent joyeusement à la volonté de Dieu, qu'ils puissent voir qu'il est puissant, qu'il est encore là pour nous sauver, nous fortifier, nous montrer le chemin de sa volonté. Donc, si nous prions que ta volonté soit faite, ça veut dire que nous devons nous soumettre justement à cette volonté de Dieu, à se conformer à elle et de proclamer autour de nous. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder la deuxième partie, prochain dia, de la prière à notre Père, qui est axée sur nous. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 11 à 13, on voit que Jésus nous invite à demander trois choses en particulier, la nourriture, le pardon et la protection. Ce n'est pas les seules choses qu'on peut demander à Dieu, mais elles fournissent le modèle de ce que nous devons rechercher en priorité. Premièrement, dans le verset 9, il dit « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Donc, pour la nourriture, Jésus veut que nous comptions sur Dieu au jour après jour. C'est vrai qu'on a l'habitude de prier avant de manger. Toutefois, on n'a pas l'habitude ici, surtout pas en Occident, de demander à Dieu de nous nourrir chaque matin. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a un compte en banque, on a un travail, on a des commerces qui sont remplis de victuales. Donc, on n'a pas besoin forcément de prier pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'avoir de la nourriture » parce qu'elle est à disposition, elle est là. On est sûr qu'à jour après jour, on va manger. Généralement, mais surtout les familles, hein, je m'en rappelle nous-mêmes aussi, lorsqu'on allait au Costco, on n'achetait pas la nourriture juste pour un jour, ou bien pour deux, mais on l'achetait pour la semaine. Donc, c'est difficile durant de dire, OK, on achète la nourriture pour la semaine, de dire, Seigneur, donne-nous la nourriture pour aujourd'hui. Mais le Seigneur veut pourvoir à nos besoins élémentaires. Il se dit pas, il veut que nous puissions réaliser que c'est uniquement son don qui nous permet d'avoir cette nourriture. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de pays, ils ont besoin vraiment de mettre concrètement cette prière en action. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain que nous avons besoin. Parce que dans beaucoup de pays, c'est vrai qu'ils vivent jour après jour. J'ai pu le voir, j'ai eu l'occasion d'aller quelques mois en Afrique et j'étais tellement touché, ébahi, fortifié par la prière très simple de personnes où j'étais qui cherchaient la nourriture jour après jour et comment que Dieu pourvoyait. Je voyais Dieu agir d'une façon puissante. Et moi qui arrivais de l'Occident, qui arrivais de l'Europe, je priais pour « Merci Seigneur pour la nourriture », mais je n'ai jamais vu dans ce bout de phrase la puissance que Dieu voulait le donner. Alors, oui, Dieu veut nous donner la nourriture jour après jour. Dieu veut que nous puissions le remercier, dire « Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette nourriture. Nous voulons être reconnaissants, même si nous avons beaucoup d'abondance, c'est toi qui nous permets d'avoir cette abondance. » On doit aussi justement prier pour ceux qui n'ont pas ce pain quotidien, afin que Dieu puisse leur donner. Le deuxième bout de phrase que nous voyons justement dans la prière, notre Père, c'est sur le pardon. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Donc, cette demande est vraiment au cœur du christianisme. Elle nous rappelle que la paix avec Dieu est toujours le fruit du pardon, jamais de nos réussites. Nos demandes de pardon doivent reposer uniquement sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus en notre faveur. Donc, quand nos cœurs ne sont pas convaincus que nous avons besoin du pardon de Dieu, nous sommes enclins à être rancuniers. On se concentre sur ce que les gens ont fait de mal sur nous. On refuse sans doute souvent de pardonner. Mais dans cette phrase, nous voyons la demande de pardon vers notre Seigneur, premièrement, vers notre Seigneur Jésus pour nos propres péchés, nos propres offenses. C'est lui qui est venu sur terre, lui le Fils de Dieu, qui était juste, qui était saint, afin de nous permettre d'être pardonnés, afin d'être justifiés par le sang qui a coulé sur la croix. Mais la deuxième partie de la phrase, il y a une démarche de nous envers celui qui nous a fait du tort. Celui ou celle qui nous a blessés par des paroles dures, qui a fait des actions qui n'étaient pas justes envers nous, qui nous a fait du mal. Donc, comme nous avons été graciés de nos fautes par celui qui est juste, qui est Dieu, on n'a pas d'excuse de ne pas pardonner. On ne peut pas dire à Jésus, « Merci Jésus d'avoir pardonné mes péchés que j'ai commis, mais je ne peux pas donner mon pardon à celui qui m'a fait du tort. » Et souvent, c'est ça qui arrive. On demande à Dieu le pardon, mais n'arrivons pas à faire le retour vers l'autre personne. Et si vous regardez la suite, si vous regardez la suite des versets de la prière Notre Père, justement, Jésus va parler du pardon, de l'importance de pardonner. Même si une personne que nous savons qu'elle nous a fait du mal, qui n'est pas venue vers nous pour nous demander pardon, on a besoin, nous, de la pardonner. On a besoin de dire à Jésus, « Jésus, ben, je veux te pardonner pour cette personne qui m'a fait du mal. Je ne veux pas tenir compte, je ne veux pas attendre son pardon pour pouvoir lui pardonner. Je peux même, si vraiment le Seigneur me le dit, d'aller vers cette personne et lui dire, « Je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. » Quand vous faites cela, et moi j'ai dû le faire plusieurs fois, lorsqu'on le fait, on voit comment que la puissance de Dieu du pardon est là. Souvent, la personne qui est en face de nous, qui reçoit notre pardon de la faute qu'elle a fait envers nous, elle-même va reconnaître qu'elle a besoin aussi de nous demander pardon. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, on voit l'épisode justement par rapport au pardon. Puis Pierre va demander à Jésus combien de fois qu'il doit pardonner à son frère. Lui, il pensait jusqu'à 7 fois. Mais Jésus va lui dire 77 fois, ce qui veut dire à l'infini. Tu dois pardonner jour après jour. Oui, mais Seigneur, cette personne, ça fait 10 fois qu'elle fait toujours la même chose envers moi. Pardonne-lui, pardonne-lui. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais cette bout de phrase, lorsqu'on le met vraiment en pratique, lorsqu'on le prie avec sincérité, Dieu agit en nous et Dieu agit vers l'autre personne. C'est vrai que dans certaines conditions, avant d'accepter de faire cette demande de pardon pour quelque chose qu'une personne a fait sur nous, des fois, il faut prendre du temps. Des fois, ça prend beaucoup de guérison par rapport à certaines situations. On voit tellement aujourd'hui d'abus de toutes sortes, abus spirituels, sexuels et psychologiques sur les personnes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas juste pardonner comme ça, aller dire « oui, oui, je te pardonne » et comme ça. Il y a un travail à faire. Mais lorsqu'on voit que ces victimes accordent le pardon, on les voit guérir, restaurer. Mais c'est vrai que ça prend du temps, ça peut prendre des mois, même des années. Le pardon est libérateur. C'est pourquoi lorsque nous prions afin que Jésus nous donne la force d'accorder le pardon, il y a une délivrance qui se fait. Il y a une libération pour nous et aussi vers l'autre personne. Et le troisième point que nous voyons, c'est la protection. Garde-nous de céder à tentation et surtout délivre-nous du mal. Le problème souvent, c'est que face à la tentation, on répond des fois par l'anxiété. En disant, ben, on ne changera jamais, je vais toujours tomber. Ou soit par l'arrogance, on s'imagine que nous avons le pouvoir de résister. Ah oui, moi maintenant je suis un bon chrétien, devant la tentation, je vais résister. Mais on voit comment que l'ennemi nous attend au coin de la rue. Lorsqu'on ne s'attend pas, comment qu'il vient nous tenter et comment que souvent nous tombons. Donc nous devons prier avant tout pour que Jésus nous empêche de rentrer en tentation avant de demander le pardon. Parce qu'on a besoin de, lorsqu'on est tenté, lorsqu'on rentre déjà dans la tentation, puis qu'on continue, c'est difficile d'arrêter. Voilà pourquoi on dit, Seigneur, garde-nous de céder à la tentation, afin que nous ne puissions pas pécher. John va dire dans son livre, si nous attendons d'être au beau milieu de la tentation pour nous préparer, il sera trop tard. Nous devons agir de manière préventive. Nous devons repérer les tempêtes de loin, consolider les murs à l'avance. La force dont nous avons besoin pour affronter la tempête vient bien de Dieu, mais ce n'est pas la prière que nous la saisissons. Voilà pourquoi justement de cette importance, de cette collaboration avec Dieu dans la prière, les uns avec les autres. Lorsqu'on est aussi ensemble, on peut vraiment s'encourager, se soutenir justement à résister à l'ennemi. Plus nous sommes près de Jésus, dans notre intimité profonde, plus nous allons compter sur lui pour nous délivrer de nos tentations et aussi de l'ennemi. Plus nous sommes humbles à reconnaître nos manquements, notre incapacité à contrôler toute notre vie, plus le Seigneur va être capable justement de nous donner les outils pour résister aux tentations et au diable. Et une grande tentation que l'ennemi utilise dans nos églises est la division et la tension entre frères et sœurs. C'est normal en tant qu'humain qu'on a des fois des chicanes, on a des tensions entre nous. Nous sommes des humains et nous avons chacun un caractère. Mais lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous parler, il va nous dire. Même dans la Bible, il est dit, avant d'aller présenter ton offrande à Dieu, avant d'aller louer le Seigneur, si tu sais que tu as un problème avec une personne, va, attends, va te réconcilier, puis après tu vas louer le Seigneur. C'est pour ça qu'au Québec, c'est vrai que le réveil est dur, parce que nous sommes divisés entre nous, au sein de nos églises. Nous voyons comment que l'ennemi est capable de nous dissocier, est capable de nous amener des tensions pour que les gens vivent des choses. Et on garde ça en nous, on garde ça en nous. Je me rappelle une fois, il y a très très longtemps, quand j'avais partagé un peu ma situation que j'avais vécue avec l'église de Saint-Henri, avec les situations qu'on a eues de division dans les années 2000, je partageais cette idée de l'importance du pardon. Et il y avait un monsieur qui est venu après vers moi, et il a dit, je te remercie, c'était vraiment bon ce que tu as partagé, mais moi je ne peux pas pardonner, ça fait 20 ans qu'une personne m'a fait du mal, je ne peux pas pardonner. Et je lui dis, ben écoute, je veux dire, c'est ton problème, mais je crois que tu vas manquer des bénédictions, des grâces de Dieu, d'avancer si tu n'es pas capable de pardonner. Et l'ennemi va nous rappeler à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, hey, tu te rappelles, tu n'as pas pardonné telle personne. Ouais, mais Seigneur, ça fait 15 ans, ça fait longtemps, on a oublié ça. Non. Tu n'as jamais fait le pas. Tu n'as jamais été vers elle. Prochain dia. Donc, maintenant, on va prendre un temps de louange et d'adoration. Nous allons commencer, comme nous le voyons dans les premières phrases de cette prière, d'adorer Dieu, de le sanctifier, de lui donner tout l'honneur qui lui est dû. Puis, dans la deuxième partie, on va remercier notre Dieu qu'il pourvoie nos besoins élémentaires, justement, à notre nourriture. Comment qu'il nous pardonne, comment qu'il vient aussi nous protéger. Nous allons demander son pardon et sa grâce. Nous allons voir aussi si l'Esprit de Dieu va nous demander peut-être de demander pardon à une personne que nous avons fait du tort. Ça demande déjà de commencer à le faire vers Dieu avant d'aller vers la personne. Nous allons aussi être prêts à pardonner à une personne qui nous a fait du tort, même si encore elle n'est pas encore venue nous demander pardon. Nous allons intercéder ensuite pour devant la tentation, pour que l'esprit du mal s'éloigne de nous, que l'ennemi de notre vie, Satan, ne puisse pas avoir d'emprise sur nous par différentes façons. Donc, on veut aller dans un temps d'adoration et on aimerait que nous puissions à haute voix aussi exprimer nos louanges. Je sais que souvent, peut-être qu'on est un peu gêné de prier à haute voix devant les autres et comme ça, mais je vous encourage, même les adultes, mais aussi les enfants, vous pouvez exprimer votre reconnaissance. Vous pouvez exprimer vos demandes de pardon devant le Seigneur. Il veut vous entendre. Nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas meilleurs les uns les autres. Mais on a besoin de nous fortifier les uns les autres. S'il y a des personnes, justement, qui, dans ce temps, veulent partager un texte biblique, quelque chose qui les a fortifiés, quelque chose qui va les guider, qui va nous guider dans la prière, sentez-vous à l'aise de le faire. On va le noter aussi pour nous. On a besoin de dire, Seigneur, maintenant, je veux prendre un temps d'adoration, de louange. Je veux me mettre devant toi et je veux mettre en action cette prière, notre Père. Je veux te prier, mon Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous la nourriture que nous avons besoin aujourd'hui. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On a besoin de le faire. Alors, la première partie, justement, on va faire plus un temps d'adoration. Et dans la deuxième partie, on va aller plus dans l'intercession. On va prendre un temps d'intercession, justement, pour que nous puissions être protégés dans le Seigneur, pour que nous puissions avoir les besoins élémentaires. Certains, peut-être, c'est la nourriture qu'on va prier, peut-être pour nos familles, là où ils sont. Peut-être, c'est de prier pour les personnes qui ont besoin de travail, parce que ce sont aussi des besoins élémentaires. Peut-être, pour certains, c'est un logement qu'ils ont besoin de trouver. On va prier pour les besoins. Si vous sentez qu'il y a un besoin que vous avez, mais que vous ne pouvez pas forcément l'exprimer vous-même, simplement le dites à haute voix, et puis on peut prier. On peut peut-être deux, trois personnes se mettre ensemble et prier pour cette personne. Laissons l'Esprit de Dieu agir. Peut-être c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire cette façon-là, Mais laissons Dieu agir. Laissons Dieu, autant dans la louange, dans les chants, peut-être que des chants que vous ne connaissez pas, ou peut-être on va changer l'ordre des chants. Laissez le Seigneur, laissez le Seigneur. Trop souvent, on vient avec une certaine routine, on dit, voici Seigneur, comment je veux t'adorer. Mais lorsqu'on se présente devant Dieu, Dieu va nous dire, maintenant, laisse-moi te diriger, laisse-moi te guider. Alors, prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous enseignes une prière qui est simple, mais qui va toucher ton cœur. Enseigne-nous à prier selon toi. Enseigne-nous à chercher ta face avant de chercher ta main. Enseigne-nous à être juste devant toi, de venir avec un cœur sincère, avec un cœur humble devant toi. Oui, tu nous demandes de nous humilier, de rechercher ta face. Et tu nous dis, alors, je vais guérir ou te payer. Alors, je vais te faire du bien. Alors, tu vas voir ma puissance agir. Seigneur, on veut se présenter devant toi tel que nous sommes ce matin. Avec nos imperfections, nos manquements, avec peut-être nos façons de faire les choses aussi devant toi. Nous voulons simplement se laisser guider par toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce temps pour que, Seigneur, nos prières puissent t'honorer, que nos prières aient selon ta volonté. Remplis-nous de toi. Que ce qui va jaillir de nos cœurs vienne de toi. Que ce ne soient pas des prières qui soient, Seigneur, construites dans notre tête, pour essayer d'impressionner, pour essayer de dire quelque chose, mais simplement dire les mots que tu veux nous dire. Alors Seigneur, utilise le groupe de louanges, utilise chacun de nous pour que ce temps soit un temps qui soit dédié pour te glorifier toi seul. Parle-nous à travers ta parole, parle-nous à travers les prières, parle-nous à travers peut-être les messages que tu vas nous dire pour que nous puissions avancer avec toi, que nous puissions comprendre ta volonté, que nous puissions voir ton nom puissant jaillir sur nous, afin que notre pays, afin que notre vie soit restaurée, afin de relever ton Église, afin de réparer ce qui était cassé. Seigneur, nous voyons, nous avons vu qu'il y a beaucoup de brèches dans l'Église et que nous avons peut-être laissées de côté. Mais ces brèches empêchent ta puissance vraiment se manifester. Seigneur, montre-nous ces brèches, même dans notre propre Église, dans notre propre vie. Permets que nous puissions les mettre à tes pieds, les abandonner et de pouvoir être régénéré, renouvelé en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur, on veut te remercier, te louer Seigneur. Parce que toi seul es digne de recevoir nos louanges. Toi seul es digne de recevoir notre adoration. Parce que tu es tout pour nous. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. C'est toi, Seigneur, qui es venu sur terre pour nous montrer le chemin, qui nous a pardonné, qui a été, Seigneur, sur la croix pour mourir pour nos péchés, pour nous donner la vie. Et Seigneur, tu nous donnes l'Esprit Saint en nous. Tu nous donnes ton Esprit pour que nous puissions continuer de t'adorer, te louer, pour que tu continues de nous apporter la direction en ta volonté. Merci, Seigneur, pour ce temps d'adoration, de prière. Tu reçois, Seigneur, reçois toutes les prières qui ont été données à haute voix dans nos cœurs, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, tu les as entendues et que tu vas répondre dans ton temps, dans ta puissance, dans ta grande volonté. Alors, merci, Seigneur, parce que lorsqu'on s'adresse à toi dans une prosternation, lorsqu'on s'adresse à toi dans une humilité, Seigneur, tu viens, Seigneur, nous rencontrer. Tu viens nous donner le repos. Tu viens nous donner, Seigneur, tes grâces. Tu viens nous donner tes grâces, tes bénédictions pour que nous puissions continuer d'avancer. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Seigneur, à la fin de ce culte, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous as montré encore ce matin à travers la prière, à travers, Seigneur, de démontrer que oui, toi seul, tu es digne de recevoir louange, adoration. Et Seigneur, on te remercie, Seigneur, que nous puissions continuer de le faire jour après jour, de se mettre devant toi pour t'adorer, Seigneur, rechercher ta face, afin que nous puissions saisir que tu es un grand Dieu et que tu veux accomplir de grandes choses aussi à travers nous. Nous savons, Seigneur, que tu as entendu nos prières, comme on l'a dit, et que tu vas agir dans ton temps à toi. Maintenant que nous allons bientôt nous quitter, on veut simplement te demander encore que cette grâce, cette paix, cette joie, cette bénédiction, Seigneur, que tu nous promets, Seigneur, soit sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour, et que nous puissions continuer de t'adorer, te louer toi seul. Gloire à ton nom seul, Seigneur. Merci pour tout. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Amen. Amen.